Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde en français, 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis les boutiques Nicolas, notamment celle qui est située à Bordeaux, 25 rue Cour-Postal sur 106.00. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur Insta, Invino, Sud Radio, pour nous partager notamment vos coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche la consommation modérée et responsable. Tout à l'heure, on va accueillir non pas une, mais deux Charlottes pour nous parler de la distillerie de l'Arbre Sec à Paris. Et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand du Château d'Aulnac dans le Bordelais. À mes côtés pour nous accompagner, l'excellente Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour Alain.
Vous avez bonne mine, vous étiez où en voyage de presse là récemment?
Alors pas en voyage de presse, en reportage au Malawi.
Au Malawi.
En Afrique de
David
l'Est.
David Cobol, c'est où le Malawi?
C'est en Afrique.
De l'Est. C'est où Hélène?
Alors c'est bien dans l'Afrique de l'Est, ça n'a pas de frontières maritimes.
D'accord.
C'est entre la Tanzanie et le Mozambique et c'est magnifique.
Bon, mais il n'y a pas de vin là-bas?
Non, il y a du thé et je reviendrai vous en parler avec François-Xavier Delmas.
David Cobol aussi parmi nous. David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, qui est meilleur en vin qu'en géographie. Bonjour David.
Oui, mais là je vous parle de la vallée du Douro au Portugal.
Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Sylvain Moret, vigneron en Bourgogne, mais également dans l'Luberon. Bonjour Sylvain.
Bonjour à vous.
Alors racontez-nous votre famille, hein, tout débute il y a 400 ans à Chassagne-Montrachet.
Ça commence il y a, oui, au moins 400 ans, puisqu'avant, ouais, on n'avait pas de registres enregistrés en mairie.
Ouais.
Mais ça, bah
vous
au moins
pas,
400
vous
ans.
Vous ne faites pas quand même, hein.
Pas encore, mais ça se rapproche.
Ils étaient quoi? Ils étaient vignerons? Ils étaient en polyculture?
Alors, ils étaient vignerons tonneliers et toujours sur des petites surfaces. C'est-à-dire là, on se rend compte que la Bourgogne, à l'époque, c'était maximum un hectare parce qu'il fallait les travailler tout à la main.
Ouais.
Après, on a eu un peu de cheval, donc ils ont dû passer entre un hectare et un hectare et demi. Et puis après, ils étaient tous tonneliers parce que comme ils vendaient tous les vins en vrac, on vendait presque plus cher les tonneaux que le vin qu'il y avait dedans.
Ce
les temps ont changé.
Gobel, hein,
ça, quand on voit les prix des Bourgognes aujourd'hui, ça fait rêver.
Ben, hein. C'est dommage pour les tonneaux, en fait, quelque part. Hélène Piau.
Alors, effectivement, une très longue histoire depuis le XVIIe siècle. Hein, à Chassagne-Montrachet, vous secouez une vigne, il tombe 17 Morets. Je veux dire, voilà. Ils s'appellent tous Morets là-bas. Et alors, Sylvain, les racines sont en Bourgogne, mais vous êtes allé vous balader dans le Luberon par amour.
Exactement, dans le Luberon même. C'est, attention,
oui, absolument. Pardon, j'ai prononcé à la parisienne.
Exactement. Bon, étant à Paris, on va vous laisser faire quand même.
Normalement, un bourguignon
mais...
qui parle
non,
à la parisienne.
Non, 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 faut pas laisser faire. Faut être exigeant sur la prononciation.
Vous avez raison, c'est le Luberon.
Exactement.
Donc.
Et bien donc, je suis descendu. Moi, en 95, j'ai fait un peu l'inverse de mes confrères bourguignons qui, quand ils s'ennuient au bout d'un moment, descendent un peu plus vers le sud. Moi, je suis déjà descendu parce qu'on était dans une famille. Mon père était encore jeune. Ma sœur Caroline... Elle avait décidé aussi de rester sur le domaine. On était sur un petit domaine familial. Et moi, à l'époque, j'ai eu la bougeotte et je me suis retrouvé dans le Luberon. Je suis arrivé en 1995.
Ah, quand même, oui. C'était...
Ouais, gros changement de vie.
Vous avez acheté un vignoble?
Alors non, j'ai fait ça à la Bourguignonne quand même. J'ai épousé à l'époque.
Ah ouais, génial, ça.
Ça, c'est un grand classique. Ça.
Je crois pourquoi il y a aussi autant de veuves en Champagne.
Exactement. Et ça. Autant de noms à double, à trait d'union.
Mais épouser un terroir plus que une famille vigneronne, puisque c'est une vraie création de domaine. C'est-à-dire, voilà, il y avait acheté une belle bastide avec des terres autour sur lesquelles il y avait quelques vignes. On a
comment s'appelle ce domaine?
Alors ça s'appelait la Bastide du Clos et sinon maintenant ça s'appelle Sylvain Moret en Luberon pour que ça soit plus
en
simple
Luberon,
pour tout le monde.
Quoi. Ouais,
exactement.
Et vous êtes toujours marié, hein?
Alors non.
Ah, c'est vrai. Vous avez perdu le vignoble alors.
Quelques années. Alors le vignoble est resté, bons usages et les bons comment on va dire. Deux très beaux enfants, plus un beau vignoble et voilà, une
bon,
cave
une nouvelle étape,
tout ça.
On va dire.
Exactement.
Hélène Piau.
Alors,
elle n'aime pas trop qu'on parle de femme, vous.
Si, tout à fait.
D'accord.
Cette Bastide du Clos, effectivement, dans le Luberon, elle est magnifique. J'en ai parlé déjà à plusieurs reprises dans Régal. C'est vraiment des vins qu'on adore. Mais effectivement, donc après ce domaine qui est né en 2002, c'est ça?
C'est ça.
Voilà, au bout de 12 ans, l'appel de la Bourgogne s'est fait sentir. Papa est parti à la retraite. Et vous vous êtes dit, je vais aller voir là-haut si j'y suis.
Alors l'appel de la Bourgogne, comme vous dites, l'appel de mon père surtout, qui m'a décroché le téléphone et qui m'a dit, est-ce que tu serais partant pour reprendre une partie de vigne qui te revient sur place?
Est-ce qu'il a dit ça vraiment comme ça ou pas?
En gros, c'était vraiment ça. Il m'a dit vraiment, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre une partie des vignes? Je vais partir à la retraite et j'ai dit, écoute, moi, maintenant, je pense que je suis prêt. Pour avoir fait 12 ans là-bas en bas, je connaissais un peu et c'était temps de remonter aussi en même temps. Donc, c'était un peu d'adaptation, mais maintenant, je ne regrette pas du tout. Je partage mon temps entre
deux pays. Vous avez une double vie avouable.
Exactement, voilà. Donc, ça c'est très bien.
Donc 439 km, combien toutes les semaines?
Non, justement, moi, je à peu près toutes les 3 semaines environ.
Enfin, votre bilan carbone, il n'est pas terrible quand même, hein, Sylvain.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, mais... Non, mais il est fait à vélo.
Et puis surtout, Sylvain rattrape ça avec des vignobles qui sont bio, qui sont très bien traités, avec des escargots partout, puisque vous vous définissez comme un escargot de Bourgogne, ce qui m'a quand même bien fait rire.
C'est-à-dire qu'on me définit comme un escargot, c'est-à-dire quand on a dit, tiens, c'est toujours... c'est le bourguignon en Provence, et la seule chose de bourguignon que les gens connaissaient là-bas, c'était l'escargot.
D'accord. Bon, faudra leur dire qu'il y a du cassis et un peu de raisin aussi quand même en Bourgogne.
Et aussi de la moutarde.
Également. Retour en Bourgogne, vous partagez les vignes avec votre sœur Caroline, justement.
Exactement.
Et vous gardez 4 hectares en appellation Chassagne-Montrachet, Saint-Aubin et Centenay. Pas mal.
Tout à fait. Avec un peu de Bourgogne à ligoter, de Côte-Brignon et de Bourgogne, parce que personne n'est parfait. Mais oui, c'est 4 hectares, 10 appellations. Ouais. Bon, en même 11, puisqu'on fait un peu de Bourgogne passe-tout-grain pour nos amis américains. Et pour le reste, voilà. Donc, c'est la vraie Bourgogne.
Les Américains aiment particulièrement le passe-tout-grain parce que ça a quasiment disparu de la.
Alors, oui, ils recherchent ça. Moi, je travaille avec un importateur qui est assez connu, qui s'appelle Neil Rosenthal, et qui, lui, ne veut pas entendre parler de Côte-Brignon. Ce qu'il veut, c'est quelque chose. Il dit Bourgogne passe-tout-grain, je sais ce que j'ai dedans, je sais d'où ça vient et tout. Côte-Brignon, il me dit, c'est trop.
Et quel âge, c'est un peu âgé, non?
Il a. Il est assez âgé, mais il connaît très, très bien les choses. Et lui, il aime bien avoir les. Savoir d'où ça vient. Il était très partisan, par exemple, des appellations Bourgogne-Côte d'Or. Il dit, moi, je veux bien acheter les Côteaux Bourguignon, mais si je les achète à Chassagne et que c'est des Beaujolais dedans, je vais payer au prix des Beaujolais, pas au prix des Chassagne.
Ah, donc il est plus malin qu'autre chose, quoi. Hélène.
Exactement.
Alors, 4 hectares en Bourgogne, c'est beaucoup. Racontez-nous, ça fait combien de parcelles, ça?
Alors, c'est...
En Bourgogne, c'est un pied de vigne, une parcelle, non?
C'est pas comme ça que ça marche. Donc là, en calcul, on va avoir... Si j'ai 10 appellations, dont 2 appellations en village où j'ai 3 parcelles différentes, donc ça doit faire 16 parcelles.
D'accord. Et autant de cuvées?
Et donc, une dizaine de cuvées différentes.
Une dizaine de cuvées.
Et la gamme de prix, ça va de combien à combien, Sylvain? Parce que...
Alors, en prix public, ça démarre aux alentours de 15-16 euros jusqu'à... Ouais. Maintenant, sur les millésimes 2021, autour de 80-90 euros.
80-90. Ouais. David Kebol, comment on explique ce succès mondial de la Bourgogne? C'est très demandé, la Bourgogne. Hein. Et même, on arrive à des prix parfois délirants, même sur le vrac. On se dit peut-être qu'il y aura une crise demain, comme celle que malheureusement les Bordelais connaissent.
Sans nécessairement parler des excès de prix, parce qu'il y en a, il faut dire que la réputation de la Bourgogne est très ancienne. Ce n'est pas un phénomène récent du tout. Les vins de Bourgogne, grâce au duc de Bourgogne, étaient très cotés dans le Brabant jusqu'en Angleterre et aussi à la cour de France. Donc c'est une très vieille histoire. Je pense que aujourd'hui, la mode pour le Pinot Noir en particulier a beaucoup aidé les rouges. Le Chardonnay a toujours été une référence mondiale. Et d'ailleurs, quand on voyage dans les pays du monde, il y a du Chardonnay partout. Donc ça, c'est la Bourgogne qui l'a imposé ou inspiré, plus exactement.
Le ton.
Donc la réputation de la Bourgogne est très ancienne et a été plus ou moins constante. Il y a toujours eu des crises dans chaque région. Mais aujourd'hui, la demande mondiale du Pinot Noir dépasse l'offre.
Sylvain, il n'y a qu'une seule Bourgogne, c'est chez vous?
Alors, il y a une grande Bourgogne aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Moi, c'est-à-dire que l'intérêt étant bicéphale, entre guillemets, quand je remonte en Bourgogne, je veux avoir ma vraie Bourgogne. C'est-à-dire les choses les plus simples possibles et des vrais vins, c'est ce que tout le monde dit, mais vraiment, moi, retrouver vraiment le terroir dans la bouteille. C'est-à-dire, il y a des terroirs qui sont meilleurs que d'autres, on a des terroirs qui sont un peu plus réputés que d'autres, ce genre de choses. Ça doit se ressentir, mais chacun doit avoir sa propre image. Voilà. Mmh. C'est vraiment ça qui guide.
Hélène Piau, c'est vrai qu'en Bourgogne, la pâte du vigneron, elle se sent énormément. Hein.
Oui, parce qu'effectivement,
terroir aussi, hein.
Voilà, les deux, et normalement, dans un vignoble bien tenu, c'est le cas partout. Mais en Bourgogne, du fait de cette diversité géologique vraiment incroyable, c'est particulièrement sensible.
Je crois qu'on peut le dire que c'est aussi parce qu'il n'y a que 2 cépages. Donc, chaque cépage est assez transparent et sert de révélateur. Oui, je mets à part la ligotée, mais c'est assez marginal dans l'ensemble de la Bourgogne, ainsi que le gamay. Quand on plante du pinot noir sur différentes parcelles, c'est évident que ça va donner des résultats différents. Et pareil pour le chardonnay.
Sylvain, c'est la mosaïque bourguignonne, c'est ce qui fait sa force.
Oui, moi j'ai un très très bon exemple au domaine. J'ai 2 premiers crus qui se touchent et qui sont très différents. J'ai un qui s'appelle les Changuins et l'autre qui s'appelle les Kairé, qui sont 2 très beaux premiers crus de Chassagne avec des vignes qui ont été plantées dans les mêmes années. C'est toutes des vignes des années 65, donc des vieilles vignes très très bien implantées sur des terroirs complets. On a une route entre les deux, un peu d'altitude et un replat. On a vraiment sur les Changuins des vins beaucoup plus, un peu plus solaires, un peu plus opulents, un peu plus riches. Donc qui parfois, quand on vient dans la dégustation, viennent souvent dire « Ah ouais, moi dans les Bourgognes, je préfère les vins beaucoup plus ciselés, plus tendus et tout, qu'on va trouver dans les Caillerets. » Mais en même temps, mon but à moi, c'est pas que les Changuins deviennent des Caillerets.
Absolument.
En les vendant 10 jours avant et en disant « Bon, bah voilà, pour que ça soit comme ça. Ouais. »
Merci beaucoup, Sylvain. Il y a un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur vos vins, même si vous n'avez pas de problème de vente.
Oui, vous pouvez aller voir ce qu'on fait et après les retrouver chez nos partenaires, www.sylvainmoret.com.
Merci beaucoup Sylvain, merci Hélène et David. Merci. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux. Et pour les gagner, il faudra aller sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Bordeaux. Il y en a plusieurs, notamment celle qui est au 25 cours postal sur 106.00. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. On peut également se retrouver sur Insta et sur les réseaux sociaux. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz.
Bonjour David. C'est le moment. Donc le jeu est très simple.
Oui.
Vous répondez à une question, vous aurez trois options. A ou B ou C, vous cochez la bonne et vous gagnez un coffret, si vous avez de la chance hein, aussi. Et la bonne réponse, vous gagnez un coffret gourmand du château d'Oyac qui se trouve dans le Bordelais. La question de la semaine dernière était quel est le lien entre Eddie et Arthur ? C'est pas un truc de comédien double. Hein.
Non.
Eddie et Arthur qui dirigent le domaine du Clot de Loom dans le Roussillon. Option A, ami d'enfance. Option B, cousin. Option C, frère. La bonne réponse, ce sont des frères.
Ce sont des frères, on les salue d'ailleurs. Ils sont
nouvelle question ce week-end, où se situent les domaines du vigneron Sylvain Moret, les domaines au pluriel. A, en Alsace et Languedoc. B, Bourgogne et Luberon. C, Champagne et Val-de-Loire.
Ah,
alors, jouez toute la semaine, c'est possible encore, sur le site invinoradio.tv, à la rubrique Vino Quiz, et les gagnants seront tirés au sort. Parmi les bonnes réponses, j'insiste.
Merci beaucoup, David Cobold. Invino Sud Radio accueille non pas une, mais deux Charlottes aujourd'hui, les cofondatrices de la distillerie de l'Arbre Sec à Paris. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bon, on commence par un petit parcours. Vous êtes qui, la Charlotte Buisson d'Aco ?
Moi, je suis bourguignonne d'origine et j'ai travaillé 15 ans dans le vin. Et puis, je suis tombée amoureuse du gin et je me suis réorientée sur les spiritueux.
D'accord, première vie.
Ça tombe
et
bien,
vie.
J'adore le gin aussi.
Et Charlotte Bartoli, elle en pense quoi ? Fraîchement mariée, Charlotte, hein, bravo.
Ouais, ça fait déjà 2 ans. Mais...
Ah bon, 2 ans, quoi, d'accord.
Oh, c'est encore frais au bout de 2 ans.
Enfin, ça fait déjà 2 ans, ouais. On a l'impression que ça fait 3 siècles. Vous êtes parlé depuis combien de temps, vous, David ?
Après 40 ans de vie commune, depuis 2 ans aussi.
Ah, c'est vrai ? Vous êtes mariée avec Charlotte ? Ah non, c'est...
Non.
Alors allons-y, là. C'est qui ? Vous êtes qui, vous ?
Donc, je suis parisienne et moi, je viens du monde de l'hôtellerie et ça fait 10 ans que je suis dans la distillation.
D'accord. Alors, ce concept-là de l'arbre sec, c'est l'arbre sec, c'est ça hein ?
Oui.
Bon,
c'est
alors racontez-nous un peu les...
Exactement, c'est le nom de la rue.
Et si ça s'appelait rue de voilà, l'arbre sec, quoi, c'est, voilà.
Oui, bah là, on a eu de la chance, ça s'appelait rue de l'arbre sec.
Et alors, à part piquer le nom d'une rue, vous faites quoi dans la vie ?
Alors, on a monté cette distillerie avec Charlotte cette année. C'est un projet qui date de 2018 et ça fait depuis 2020 qu'on a le local. On a mis 2 ans à avoir les autorisations et à pouvoir faire les travaux. Et on a ouvert donc une distillerie ouverte au public qui nous permet aussi de faire des ateliers de distillation et l'initiation à la dégustation de gin.
Hélène, vous connaissez Hélène ou pas ?
Alors, je suis passée devant, j'ai poussé la porte et puis il y avait plein de monde, tant mieux pour vous. Et j'étais super pressée,
oh,
donc je me suis dit que j'allais revenir.
Pio, hein.
J'avais pas le temps de rester et d'embêter tout le monde en disant « Bonjour, je suis journaliste, j'ai des questions. »
Est-ce que ça sentait bon, Hélène ?
Ça sentait bon, c'était surtout très très beau parce qu'il y avait toutes ces... tout ce qui sert à faire le gin, il y avait une 100aine de produits sur des étagères, c'était très très chouette et ça donnait effectivement très envie d'en savoir plus. Mais c'est très très récent, vous avez ouvert quoi, en février ?
Oui, on a ouvert officiellement en février.
Et pourquoi vous avez autant galéré pour ouvrir ?
Bah, monter une distillerie artisanale au centre en de ville, Paris, ouais. C'est pas le projet le plus simple à réaliser.
Fallait faire une boulangerie.
Voilà, exactement.
C'est une question d'alcool et de danger.
Oui,
si
il y a un peu
c'est
tout
quoi, l'idée
entre les autorisations classiques qui sont déjà pas forcément faciles à obtenir, tout l'encadrement, notamment avec les douanes, et puis faire des travaux à Paris, on le sait, c'est laborieux.
Dans un bâtiment classé.
Alors justement, Charlotte Bartoli, racontez-nous donc le lieu, la fête tour. Alors Hélène, elle a déjà parlé bien, mais c'est petit, c'est grand, c'est...
Alors c'est pas extrêmement grand, c'est en fond de cour, donc c'est rue de l'Arbre Sec.
D'accord, quel numéro ?
Alors c'est au numéro 52, c'est une porte cochère bleue.
Et quel arrondissement ?
C'est dans le premier arrondissement de Paris, ouais, au niveau de Louvre-Rivoli pour la station de métro.
D'accord. Et le bus, c'est quoi?
Alors, le bus, je ne pourrais pas trop vous indiquer, je suis à vélo. Voilà, faut prendre les.
Je pense que le 39 ne passe pas très loin.
Bon, on revient peut-être à l'alcool, là, enfin, l'alcool au vin, avec modération, bien sûr. Et alors, donc là, il n'y avait rien avant?
Alors, avant, c'était une ancienne librairie de presse ancienne qui était là depuis à peu près 50 ans. Donc, quand ils ont déménagé, il a fallu en fait tout refaire. Le local a été absolument vide. Il y a eu un
curtage de fait. Vous avez?
C'est un peu moins de 200 mètres carrés.
Ah, quand même, c'est pas mal, hein, 200 mètres carrés.
C'est pas mal pour Paris. Ça reste une petite distillerie. On a 4 espaces. 2 qui sont vraiment dédiés aux ateliers. 1 où c'est un petit cabinet des botaniques. Donc, il faut s'imaginer un petit cabinet de curiosité avec une centaine de botaniques dans des bocaux.
Ce qu'a beaucoup plu à Hélène.
Absolument.
Ça, c'est effectivement de la cour. On peut voir ce petit cabinet des botaniques. Il n'y a pas d'odeur parce que c'est surtout des plantes séchées.
D'accord.
Qui sont évidemment dans des bocaux fermés. Et après, il y a cette grande salle des ateliers où on a 18 alambics de 2 litres dans lequel on
un
peut...
Un alambic de 2 litres,
voilà,
des petits alambics. C'est des mini-distillations.
C'est des mini... Voilà, mais exactement.
Pour que chacun puisse venir faire son propre gin.
Ah oui.
Donc en fait, parce que c'est... Bon, vous allez nous raconter...
Alors, on va demander à Charlotte BD, hein, Buisson d'Aco, là. Charlotte, dites-nous, comment on élabore du gin?
Alors le gin, c'est sur le papier, c'est très simple. Il faut de l'alcool dit neutre, donc d'accord, un alcool qui titre à 96% minimum, de l'eau et des plantes. Et obligatoirement la baie de genièvre, qui est la seule plante obligatoire pour s'appeler gin.
Elle vient d'où d'ailleurs?
La nôtre, elle vient de l'Auvergne. On a la chance d'avoir pu se fournir avec une baie de genièvre française bio de grande qualité. Voilà.
Hélène?
Alors effectivement, sur le papier, comme vous disiez, c'est très simple. Après, au moment où on veut donner une personnalité à son gin, ça se complique un peu.
Oui, absolument. Faire un gin qui est bien équilibré, c'est pas simple. On a aussi toute une partie en amont. Déjà, le gin, c'est pas obligatoirement distillé. Nous, on a choisi de le faire. Mais ça implique aussi des macérations. C'est pas forcément les mêmes macérations pour les différentes plantes. Donc, il y a vraiment beaucoup de critères différents à prendre
en
compte.
Donc, qu'est-ce que votre gin qualifie pour l'étiquette London Dry Gin, du coup?
Alors, Charlotte Bartoli.
Oui. Qui ne vient pas de Londres, j'insiste là-dessus, c'est une des particularités. C'est une appellation.
Vous n'êtes pas partie en vacances à Londres, Charlotte?
Non, mais London Dry Gin, c'est très particulier, vous allez en parler, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire à Londres.
C'est
la technique qui est décrite.
Exactement, c'est la technique, et nous, c'est notre technique, c'est-à-dire que donc c'est un gin qui est redistillé. Donc c'est ce que nous faisons avec un alambic Holstein, qui est un alambic de marque allemande, qui est tout en cuivre, un alambic hybride qui est à la fois un pot still et à la fois un alambic à colonne. Donc ça nous permet vraiment...
C'est facile à trouver tous ces alambics parce que c'est joli en plus.
Alors c'est différents styles d'alambic, hein. Nos petits alambics qui viennent du Portugal, et notre alambic notre gros alambic sur lequel on fait notre production, il vient de l'Allemagne. C'est facile à trouver, oui, on peut trouver aussi des alambics français, mais nous on a opté pour la marque allemande.
Parce que c'est une maison européenne, c'est ça, David Cobol, quoi. Alors, qui sont les clients qui viennent? Alors, évidemment, il y en avait beaucoup quand Hélène est passée. Là, ce sont quoi, des particuliers, des curieux, tous les habitants de la rue de l'Arbre Sec?
Oui, et du quartier de Paris. On a beaucoup de curieux qui viennent voir ce qu'est la distillerie. On travaille aussi en partenariat avec les caves du Louvre. Donc, les clients des caves du Louvre viennent aussi à la distillerie à la fin de leur parcours.
Je précise qu'il y a une raison à ça, qui est que le troisième larron qui n'est pas au micro aujourd'hui est Nicolas Paradis, fondateur
qui est votre
associé.
Exactement.
Voilà. Fondateur des Caves du Louvre et avant ça de Haut-Château, voilà, bar à vin très connu aussi dans Paris.
Et amateur de rugby. Et donc aujourd'hui, donc, la clientèle?
Alors,
les bobos du quartier?
Aussi, entre autres, on a quand même des touristes qui viennent nous voir. Et puis, comme je vous disais, en fait, des gens qui ont entendu parler de la distillerie et qui jettent un coup d'œil, puisqu'on est ouvert au public. Donc,
comment ça coûte d'ailleurs une bouteille de votre gin?
Alors, pour l'édition limitée qu'on a faite en 500 bouteilles, c'est 52 euros.
52 euros. Je ne me rends pas compte,
Hélène,
par rapport à des gins haut de gamme, 52 euros, on est sur le...
On est sur du haut de gamme, effectivement.
C'est dans la fourchette des haut de gamme. Ouais.
Bon, génial. Allez, vous avez un site internet, un compte pour vous retrouver, pour en savoir plus sur les Double Charlotte?
Oui, c'est...
distilleriedelarbresec.com.
Tout simplement. Et sur Instagram, @distilleriedelarbresec, tout attaché.
Hélène Piau.
Il y a 2-3 petites choses à préciser qui sont très importantes. Si vous voulez aller visiter, vous pouvez en une heure vous faire tout expliquer par les deux Charlotte ou l'une des deux, c'est le même prix. Ça sera 30 euros. Si vous voulez distiller votre propre gin, ça dure 2h30. Une personne, donc un alambic, vous repartez avec votre bouteille.
Et on repart avec sa bouteille.
110 euros. Génial. Oui. Et pour deux personnes, 165 euros.
Oui. Et ça, c'est ouvert tout le matin, midi, soir, tout le temps ou...
C'est sur réservation et tout est sur notre site internet. Vous avez le calendrier.
Y compris le week-end ou uniquement en semaine?
Oui, absolument le week-end aussi.
Merci beaucoup aux deux Charlotte. Merci Hélène Pio et Sylvain Moret, ainsi qu'à David Cobol et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Et j'espère avec beaucoup de passion. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour nous retrouver, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv. Les comptes Facebook, Insta, Invino Sud Radio. Et on se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h précise hein, pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. On aura le plaisir de recevoir Cédric Lecareux, qui est le propriétaire du domaine Les Capréoles. Nous sommes dans le meilleur du Beaujolais, ainsi que Valérie Pajotin, directrice de Anivin de France, pour nous parler des cépages, les cépages français. D'ici là, excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.